RCF.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un thème de réflexion qui a déjà été abordé il y a un peu plus d'un an. Mais comme il s'affirme de plus en plus sur la scène du travail médico-social, je souhaite compléter la présentation qui en a été faite à l'époque. Il s'agit de la pérédance, qui s'est principalement développée en France dans le champ de la santé mentale et du handicap. Pour développer et approfondir ce sujet, Étienne, qui est près de moi, apportera son témoignage puisqu'il vient de terminer sa formation de père aidant. Étienne, pouvez-vous nous dire ce qu'est la père aidance ?
Le concept de père aidant existe depuis longtemps. Il repose sur l'idée qu'en ayant vécu la même maladie, physique ou psychique, on peut d'autant plus s'entraider. Ainsi, la personne qui a réussi à gérer au mieux sa maladie peut accompagner une autre personne qui n'en est pas au même stade.
Alors vous-même, vous avez donc souffert d'une maladie ?
En effet, j'ai souffert de troubles bipolaires pendant une quinzaine d'années et d'un grave burn-out. Je suis rétabli grâce à un entourage favorable et un traitement médical cohérent.
Alors nous venons de définir le concept de père aidance, mais pouvez-vous me dire quelle est sa spécificité ?
Le père aidant intervient en complément d'une équipe professionnelle, médicale ou sociale, en apportant une compétence grâce à l'expérience de son vécu pour agir au plus près des besoins des personnes. Il participe ainsi à l'amélioration de la qualité du dispositif thérapeutique.
Donc, si j'ai bien compris, c'est à partir de l'expérience de sa maladie et de la compréhension de son propre processus de rétablissement que le père aidant accompagne les patients qui sont alors devenus ses pères. Il les aide à surmonter les obstacles et à identifier ce qui concourt à leur rétablissement. Quand vous êtes, vous, Étienne, par exemple, en milieu hospitalier ou dans d'autres milieux avec des malades souffrant de troubles psychiques ou d'addiction, comment établissez-vous le contact avec un malade ?
Quand je rencontre un patient pour la première fois, après lui avoir exposé une partie de mon propre parcours et ma propre expérience, je lui explique la raison de ma présence auprès de lui et l'aide que je peux lui apporter qui sera complémentaire à celle des professionnels.
Je crois aussi qu'entre pairs, la relation peut s'établir facilement parce que l'autre ne se sent ni jugé, ni en position inférieure, ni discriminé. Vous, Étienne, vous agissez auprès de ce patient avec plusieurs objectifs. Quels sont-ils ?
Alors, mes objectifs ont tout un seul but, le rétablissement. Mais pour y parvenir, il faut les décliner les uns après les autres. Le premier d'entre eux, qui me semble essentiel, est la confiance en lui que le patient doit retrouver. Ensuite, il est indispensable de lui faire comprendre que c'est lui qui est acteur de sa vie et que c'est à lui de lui redonner un sens. Pour y parvenir, nous examinerons ensemble les aspects positifs de son passé chaotique afin de faire ressortir ses capacités et ses désirs pour qu'il soit en possibilité de monter son projet de vie.
Alors pour être capable de s'investir dans un projet de vie, il faut effectivement retrouver la confiance et l'estime de soi. Comment procédez-vous ?
Il faut redonner au malade le goût de l'envie de sortir de chez lui. L'aider à sortir de son isolement en l'accompagnant, par exemple, dans des activités qu'il aura choisies lui-même, qu'il aura éventuellement mises en place et qu'il accomplira jusqu'à la fin. L'accompagnement, le dialogue, les activités sont des moyens qui permettent de combattre les pensées négatives et aident à reprendre le contrôle de soi et à retrouver confiance.
Comment encouragez-vous le malade ? Quelle attitude adoptez-vous avec lui ?
Je suis essentiellement dans l'écoute active, ce qui permet au malade de réfléchir et ainsi de trouver ses propres solutions aux différentes difficultés qu'il rencontre. J'essaie toujours d'avoir une attitude compréhensive, respectueuse et de rester dans le non-jugement. Pour lui redonner de l'espoir, je peux m'appuyer sur mon expérience à moi et mon vécu, et lui démontrer que le rétablissement est toujours possible malgré tous les aléas qui peuvent intervenir à tout moment.
Alors nous avons décrit ce qu'est le rôle du père aidant. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il n'est pas, ce rôle.
Alors, en aucun cas, le père aidant ne remplace le milieu professionnel ou social. Mais il participe à un travail d'équipe au bénéfice du patient. Il offre une alternative spécifique et complémentaire aux interventions des soignants. Il agit comme un médiateur entre le milieu professionnel médical ou social et le patient. C'est pourquoi on l'appelle souvent médiateur santé-père.
N'y a-t-il pas le risque que le père aidant se positionne en tant que sauveur des patients qui l'accompagnent ?
En effet, le père aidant doit faire attention au risque de sa toute-puissance vis-à-vis des usagers qu'il est censé aider, qu'il manque d'humilité dans son travail et qu'il soit convaincu que son expérience vécue est meilleure que les compétences de ses collègues. Cette attitude serait complètement préjudiciable et pour lui et pour les patients qui l'accompagnent.
L'idée qu'un savoir basé sur le vécu puisse être mis au même niveau que des compétences professionnelles peut poser question et interroger notamment sur les modalités pratiques d'intégration au sein d'une équipe de professionnels. Alors, comment le père aidant peut-il s'insérer dans les organisations de travail ?
Une bonne intégration se fait lorsque les deux parties y mettent du sien. Mais les expériences internationales ont montré que cela nécessitait une formation préalable du père aidant, ainsi qu'un accompagnement et une supervision de l'équipe accueillante. Il faut également, pour éviter le risque d'une confusion des rôles, qu'une fiche de fonction soit établie qui définisse clairement le statut du père aidant. S'il est salarié, le montant de sa rémunération peut aussi jouer sur son intégration.
Vous êtes bien sur RCF et au nom de l'UNAFAM, je reçois Étienne qui nous apporte son témoignage sur la père aidance. Alors Étienne, il n'existe pas de profil type pour devenir père aidant. Or, il semble qu'une formation soit absolument nécessaire. Vous-même venez d'en terminer une. Quel est l'organisme qui vous l'a dispensé ?
J'ai suivi une formation en alternance proposée par la Fédération des acteurs et de la solidarité basée à Chenôve.
Quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de cette formation ?
Actuellement, aucun diplôme n'est obligatoire pour y accéder, mais une expérience de vie est requise et peut être multiple et diversifiée. Il est nécessaire également que la maladie dont le futur père aidant a souffert soit stabilisée depuis un certain temps.
Et quelle est la durée de cette formation ?
La formation qui a concerné 8 personnes a duré 6 mois qui ont été très intenses. En dehors de la formation théorique, j'ai effectué de nombreux stages auprès de malades psychiques de tout âge, dans des foyers ou des résidences, également auprès de malades mentaux, de malades souffrant d'addiction, de malades atteints de VIH et d'hépatite. J'ai aussi effectué un stage au sein du dispositif Un chez-soi d'abord, destiné à des personnes atteintes de troubles psychiatriques et addictions ayant connu l'errance. Tous ces stages m'ont appris à avoir une approche solidaire, compréhensive et humaine envers les personnes en état de souffrance.
Votre formation est terminée maintenant et quelles sont les possibilités de travail qui s'offrent à vous ?
Tous les pères aidants ne sont pas forcément salariés. Dans ce cas-là, on utilise souvent le terme de père aidant bénévole. Quand ils sont salariés, ils peuvent l'être dans un établissement hospitalier public ou privé, dans un foyer ou une résidence ou dans une association. Ils seront alors encadrés et supervisés par des professionnels de l'organisme.
Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est le secteur de l'accueil, hébergement, insertion et de l'urgence qui soit particulièrement concerné par l'accueil de père aidant. En témoigne le plan quinquennal 2018-2022 pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, qui fixe le développement du travail père comme l'une de ses priorités d'action. Vous avez d'ailleurs, je crois, effectué un stage au sein du dispositif Un chez-soi d'abord à Dijon, qui vous a beaucoup intéressé. Mais ne faut-il pas également s'interroger sur les avantages et les intérêts d'avoir un père aidant dans une équipe de professionnels, aussi bien pour les patients que pour leur entourage et le père aidant lui-même. Pour les patients, par exemple, Étienne, et pour leur entourage, quel avantage en tire-t-il ?
Pour les patients, la présence de soutien par un père aidant produit des impacts positifs, tant en termes de qualité de vie que de réduction des symptômes et du nombre de crises. Il représente aussi un modèle de rétablissement. Pour l'entourage des patients, Les pères aidants créent souvent des passerelles entre les services de soins et les lieux d'intégration dans la cité, ce qui peut faciliter le processus de rétablissement.
Et pour le père aidant ?
Pour le père aidant, le fait d'être embauché en tant que tel augmente l'estime de soi et le confort dans son sentiment de reprise de contrôle de sa vie. On peut aussi considérer que le père aidant et le patient s'approchent des choses mutuellement dans un échange de réciprocité.
Et les équipes soignantes trouvent-elles un intérêt à travailler avec un père aidant ?
Il peut y avoir un risque de stigmatisation au sein des équipes, les professionnels pouvant sous-estimer les compétences et le parcours du père aidant et considérer qu'il est trop fragile pour faire ce travail. Mais ces préjugés peuvent s'estomper au fur et à mesure de la prise d'intégration dans le poste. Il faut aussi ajouter que pour les équipes de soins, l'intégration de père aidant provoque une évolution inévitable dans leur culture professionnelle.
Vous-même, ancien malade, ne craignez-vous pas un risque de recrudescence des symptômes de votre maladie passée ?
Ben là, il faut rester attentif à tout signe éventuel de rechute, et notamment à la fatigue physique et relationnelle. En ce sens, un travail à temps partiel, 3 ou 4 jours par semaine, peut être pertinent, car permettant de se préserver un temps de pause souvent nécessaire à l'équilibre personnel. En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à se tourner vers son propre réseau de soutien et de soins et non vers ses collègues de travail. Une supervision ou des réunions d'analyse de la pratique peuvent se révéler bénéfiques pour pouvoir discuter avec des professionnels extérieurs de ce qui se vit au sein de son travail, notamment dans ses relations avec les usagers, mais aussi avec ses collègues.
Il faut quand même ajouter que le père aidant a droit, comme tout le monde, d'exprimer de la colère, de la tristesse et du stress, sans que cela soit à mettre sur le compte de ses anciens troubles psychiques. Nous arrivons au terme de notre émission et j'espère que le témoignage d'Étienne sur le rôle du père aidant a pu apporter un éclairage suffisant pour sa compréhension. Sans oublier que les troubles psychiques sont si complexes que ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, chacun ayant ses propres ressources construites à partir de son histoire unique. Merci Étienne pour la sincérité de votre témoignage.